R22, tout mon
R22, antenne, tout mon
Radio Brouhaha.
Bonsoir, merci Jean-Max. Donc c'est la quatrième émission de Radio Brouhaha ce soir. Alors, pas de point commun entre nos invités ce soir, donc je tente pas un chapeau qui va les rassembler. On a pour ce soir, à ma droite, Ded Kabal, auteur, rappeur, slammer.
Bonsoir.
À ma gauche, Guillaume Sorensen, primo-romancier. Hein, c'est le moment, c'est notre case des primo-romanciers. Et le collectif RERQ, très bien représenté ce soir.
Bonsoir.
Avec Rebecca Chaillon, qui vient de dire bonsoir, Camille Cornu, Etta Insver et Claire Finch. Et on commence par La Rage.
Il pleut si fort, il pleut de rage, la pluie dévore, même les plus sages, nos idées souffrent, précarisées, et nos hantises, manque entraînées. Il pleut la mort, il pleut la rage, il pleure des corps, gronde l'orage. Les guerriers gisent, membres brisés, et nos vertiges. Un fracas épouvantable juste au-dessus de nos têtes. Un tonnerre sourd comme si nos tympans avaient pris perpète. Le sentiment que des sacs de viande sont lâchés des airs. Ce sont des corps sans vie qu'ils jettent de leurs hélicoptères. On s'est en trouble, il ne faut pas être révolutionnaire. La milice rôde et efface le moindre apprenti incendiaire. Les chaînes de télé avaient pourtant pris soin de nous avertir. Ceux qui ne rentrent pas dans les rangs essuieraient les tirs. Croisés, groupés, concentrés, nourris et meurtriers, groupés, concentrés. Ne pleure pas petit, dis-moi donc qui t'avait menti. Tu croyais accéder à l'éternité en venant ici. Qu'est-ce que tu croyais? Tu te voyais en qui moquait, produisant des écrits que tout le monde lirait. La mort est là, mais moi je ris quand même. Encore un bleu qui pensait qu'une guerre pouvait être saine.
Il pleut si fort, il pleut de rage, la pluie dévore. Même les plus sages, nos idées souffrent, précarisées. Et nos hantises, aux gangrénées. Il pleut la mort, il pleut la rage, il pleure des corps, gronde l'orage. Les guerriers gisent, membres brisés. Et nos vertiges nous ont armés.
Nous avons été trompés depuis le tout premier jour. Quand on nous a fait croire que l'ennemi avait dérobé l'amour. Alors nous sommes venus de partout enroulés à tour de bras. Engager nos propres vies dans la défense de l'élément R3. Trompés par nos chefs, abusés par la presse. Nous sommes rapidement devenus de sanguinaires mercenaires. Coincés dans une bande de lutte d'urgence. Nous étions affamés et coléreux. On s'est dirigés comme un seul homme, mais comme un seul homme dangereux. Vers les réserves mondiales, nous avons dynamité les piliers.
Donc on vient d'écouter le début de Orage de Ded Kabal. Auteur, slammeur, rappeur, metteur en scène, comédien, danseur,
non,
plein de choses.
Danseur, non. Non.
Ah, j'ai vu que tu avais participé.
Je bouge sur scène, mais je danse pas.
D'accord. donc, ce qui donne déjà peut-être le ton de la conversation à venir et les thèmes de la conversation à venir. Mais sur ce que nous venons d'entendre et sur ce que nous venons de voir pour le public qui est là, je voudrais commencer par te poser deux questions. Une question, la première fois que je t'ai parlé au téléphone, c'est-à-dire il y a quelques heures à peine, j'ai entendu une voix que je connaissais pas, puisque je connaissais ta voix lorsque tu rappes, et cette voix n'a strictement rien à voir avec ta... Enfin, rien à voir. On sent que tu as choisi d'installer une voix de performeur quand tu rappes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça?
Ouais, c'est une bonne idée de commencer par ça. Effectivement, j'ai ma voix claire et ma voix de travail, comme je dis. Et enfin, j'ai envie de dire une de mes voix de travail. Et pour moi, ça a été... donc ça remonte, hein, ça fait... je crois que la première fois, c'est en 1993 que j'ai utilisé ce son-là. Moi, il y avait la volonté de trouver un son qui m'intéressait, qui me permettait de travailler. Et en fait, cette voix, à la base, elle a été prise pour un morceau spécifique, très très dur, très très sombre, sur les tréfonds de l'âme humaine, etc. Et en fait, tous les gens qui ont écouté ce morceau faisaient la grimace. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais garder.
Ouais. Ouais.
Et en fait, avec le temps, c'est un peu comme... du théâtre de masque pour moi. C'est, je mets un masque et ça me permet d'aller de me découvrir au maximum puisque cette voix est une espèce d'ultime rempart entre moi et les gens qui écoutent. Et voilà, et c'est une voix qui est de plus, qui est de plus en plus encombrante. Je l'utilise de moins en moins et c'est intéressant de voir comment en moi elle évolue et qu'elle fait sa vie.
J'ai vu que quand même aussi sur scène, on va reparler très bientôt de tes pièces de théâtre, sur scène tu l'utilises parfois aussi cette voix,
parfois
sur, scène, sur la scène du théâtre, hein, je veux dire pas quand tu rappes.
Alors parfois et très peu, et sur ma dernière création qui a joué à la Colline en mars, je crois que cette voix-là est utilisée pendant 2 minutes 30 sur 1h25 de spectacle, donc ça dépend. C'est vraiment, j'utilise comme un instrument. Pour moi, c'est très important de réfléchir sur le son qu'on produit. Je suis très très attentif au son des voix, aux propositions qui sont faites avec les voix, etc. Et moi, voilà, ce son-là s'est imposé à moi. J'en ai développé d'autres sur d'autres types de projets et j'aime bien. Et puis ça me permet aussi de sectionner mes personnalités et de dire celle-ci parle comme ça, celle-là parlera plutôt comme ci, et de créer des personnages.
Et donc on vient de voir aussi, pour ceux qui étaient là, et puis vous pourrez le retrouver en ligne pour ceux qui le souhaitent, ce clip absolument magnifique, extraordinaire de Orage, qui aussi me semble résumer, enfin donner une indication sur ton travail, ce goût de l'œuvre d'art totale aussi, qui d'accompagner par des clips qui sont des vraies œuvres d'art, et puis on va y venir, la scène aussi.
Alors un clip, un beau travail effectué par deux personnes qui m'ont contacté à la base, qui avaient envie de travailler sur un projet de film animé donc c'est Aurélien Girard et non pas Jean-Baptiste Poquelin comme j'ai des fois pour présenter, donc Aurélien Girard et son partenaire dont j'ai oublié le nom et c'est la honte parce que le temps passe et je vieillis et je m'en veux chaque jour. Et Étienne Vautrin, ça y est. Et donc ils sont venus vers moi en me disant voilà, on veut mettre un clip à toi en image, etc. Et c'est des gens qui connaissaient très très bien mon travail. Et donc on a commencé à discuter de ce dont j'avais envie. Je leur ai fait écouter plusieurs morceaux. C'est eux qui ont choisi Orage. Et ça tombait bien parce que c'était un peu mon morceau préféré du moment à l'époque et tout. Et ce qui est assez saisissant pour moi, c'est qu'on a tellement discuté que dans ce clip, il y a des images de mes cauchemars d'enfant, quoi. Et je trouve ça assez trippant. Et voilà, c'est cette envie de pouvoir proposer une œuvre la plus complète possible, sachant qu'on n'y arrive jamais. Et qu'au moment où on livre l'œuvre à l'extérieur de soi et qu'on la livre au public ou aux auditeurs, aux spectateurs, on appelle ça comme on veut, elle existe par elle-même et on essaie d'aller le plus loin possible dans cet intervalle qui est on crée et puis on laisse sortir, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce clip parce que j'ai bien aimé comment il s'est fabriqué, j'ai bien aimé comment il raconte ce morceau et voilà.
Alors j'aimerais qu'on commence à discuter d'une partie de ton œuvre qui m'a beaucoup passionné ces dernières semaines. C'est la partie de reprise, presque de remake que tu fais de textes anciens, Orestie, Agamemnon. Et il se trouve que lors de la première émission, nous avions invité la latiniste et anthropologue de la littérature Florence Dupont et qu'on a commencé par le teaser que tu fais d'Orestie, qu'on lui montrait parce qu'à la fin de ce livre, elle dit « La culture du remake est de plus en plus présente et si la culture antique doit renaître, ça sera peut-être par le hip-hop. » Est-ce que ça résonne avec toi?
Ça résonne d'autant plus qu'on a lu Florence Dupont dans le travail. Donc Orestie, c'est un spectacle qui a mis énormément de temps à se monter parce que très peu suivi par les théâtres qui ne comprenaient pas où on voulait aller. Et même nous, pour être honnête, au début, quand on a commencé à parler de ce projet en 2010, on avait une vague idée de là où on voulait aller, mais ce n'était pas très très clair. Et on savait juste qu'on avait envie de fabriquer notre propre histoire et notre propre regard sur ce théâtre antique et sur les esthétiques qu'on a envie de convoquer. Et Florence Dupont fait partie des gens qu'on a lus et qui nous donnait raison dans notre démarche, qui nous disait autre chose que vous êtes des fous. Parce qu'évidemment, on était un peu fous. Donc c'est un spectacle qui me tient à cœur parce qu'en fait, ça a mis 8 ans à monter. Ça fait à peu près 25 ans que je fais ce métier, donc un tiers de ma vie, ma vie d'artiste, c'est beaucoup. J'ai failli en crever, je crois. Et la dernière année, je crois que je pleurais tous les jours d'émotion. J'ai vu l'affiche, j'ai pleuré. On a commencé à répéter, j'ai pleuré. J'ai vu une scène, j'étais à fleur de peau. Ça faisait longtemps qu'on portait ce truc-là. Et pour moi, il y avait une espèce d'évidence de se dire qu'effectivement le hip-hop peut restituer l'art total qui était le théâtre antique. Et à la base, j'ai pas une passion pour le théâtre antique, mais c'est quelque chose qui me parlait dans la mesure où c'est des textes hyper sombres et que on est pareil comme je disais tout à l'heure, quoi, on est vraiment dans les tréfonds de l'âme humaine, dans les guerres, dans les conflits familiaux, tout ça prend une place extraordinaire au-delà de l'ordinaire, je veux dire. Quand on a commencé par Agamemnon et ensuite on nous a demandé ce qu'on voulait faire la suite, la MC93 a demandé ce qu'on voulait faire la suite. Et on s'est dit qu'on avait trop travaillé sur Agamemnon pour pas rejouer Agamemnon, donc on a fait l'Orestie. Et donc on est très très fidèle à l'histoire d'Eschyle sur les deux premiers épisodes, et le troisième épisode est totalement écrit par mes soins pour inventer une autre problématique autour de la justice aujourd'hui.
Donc tu veux dire que sur les deux premiers épisodes, vous vous êtes servi des traductions existent et vous l'adaptez juste pour le théâtre à partir des traductions, tandis que le troisième épisode, ça va être un travail d'écriture, d'inspiration.
Tout est complètement réécrit.
D'accord.
Les trois épisodes sont complètement réécrits par moi et je voulais vraiment réécrire pour la bouche, pour le son, pour la scansion, etc. Et puis travailler d'autres types d'images poétiques. Donc on est vraiment resté collé au sens sur les deux premiers épisodes et le troisième, vraiment, c'est une invention. Et voilà, pour moi, c'était important de finir ce spectacle par pas justice, pas de paix. dans un spectacle qui interroge la justice qu'on monte en 2018. Pour moi, c'était hyper important de finir par ces phrases-là. Et voilà, je trouvais ça intéressant que moi, d'où je suis, par rapport à mon parcours, les esthétiques que je convoque, j'avais envie de me repositionner sur la justice aujourd'hui, de dire voilà, comment on peut l'interroger. Et avec Arnaud Churin, on a vraiment travaillé avec une équipe incroyable de 19 personnes où sur scène, il n'y avait aucune musique enregistrée, tout était joué en direct par la bouche. Donc les acteurs étaient aussi chanteurs, il y avait des human beatbox, enfin, c'était un truc...
Et peut-être d'ailleurs tu peux revenir sur ce que tu as à peine esquissé, mais je crois que tu as beaucoup plus développé à certains endroits cette chose-là, c'est ce rapport entre la culture hip-hop et la culture du théâtre antique.
Bah, c'est toujours très difficile de parler de choses qui sont évidentes pour soi.
Mais qui ne le sont pas pour tout
les
le
autres,
monde.
Mais pas du tout pour les autres. Y a quelque chose de l'ordre de... Pour moi aujourd'hui, enfin, si je travaille autant en théâtre aujourd'hui et que j'écris plus de pièces que je fais d'albums, c'est parce que pour moi l'espace théâtral permet tout. Et tant qu'il permet tout, j'y serai. Et dans ce tout, il y a cette volonté d'interroger l'adresse, d'interroger la scansion, d'interroger la musicalité des langues. Et le rap, c'est ça. Le rap, le slam, le spoken word, toutes ces pratiques orales, la poésie, sont des gens qui sont experts dans une façon de dire. Et voilà, moi je reviens d'un stage dans un endroit qui s'appelle LAFA, la Fabrique des Acteurs Autonomes, avec Daria Lippi, où j'ai fait un stage avec des acteurs pendant 5 jours sur la scansion du rap. Et c'était génial. C'est génial de voir des gens qui ont envie de bouger de leur position de base et de dire on peut s'ouvrir, prendre d'autres types d'esthétiques et travailler d'autres types de matériaux. Et pour moi, le hip-hop, c'est ça. Le hip-hop, quand vous allez à Dakar, quand vous allez en Haïti, quand vous allez au Japon, il a des couleurs différentes et il est partout. Donc pour moi, il y avait une chose complètement évidente de dire on peut réinterroger n'importe quel mythe à partir de n'importe quel type d'esthétique. Et le hip-hop était désigné pour ça, quoi.
Ouais. Et ce que dit aussi Florence Dupont et que j'ai retrouvé dans certains de tes écrits d'ailleurs, quand tu dans les notes d'intention pour Oresti ou pour Agamemnon, je ne sais plus, c'est aussi de dire qu'il y a une consonance, disons, entre le hip-hop et la culture antique. C'est la question de la culture populaire aussi. C'est une culture qui représente le peuple et qui par ailleurs travaille avec plusieurs formes, la danse, le chant. Notamment toi tu as fait rechanter le chœur sous forme hip-hop. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être parler de ça?
Oui, après c'est très très, pour moi c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que dans l'Antiquité il y avait aussi des esclaves qui n'avaient pas le droit d'aller au théâtre, donc voilà, il faut aussi faire attention aux ponts qu'on tire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment à quel point une culture qui aujourd'hui est encore dénigrée, ben voilà, y a un gros festival qui vient d'être annulé parce que les riverains ne voulaient pas de rap dans leur arrière-cour. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que d'autres types d'esthétiques qui ont légion, que tout le monde trouve extraordinaire, sont hyper proches des esthétiques convoquées par le hip-hop, quoi. Et donc, pour nous, c'était hyper simple de faire un lien et de le donner à voir aux spectateurs. Et d'ailleurs, ça a bien fonctionné.
Alors, je t'ai moins entendu parler ou lu à propos de l'autre terme que tu convoques, qui n'est pas le théâtre antique, mais qui est l'opéra. Tu présentes tes pièces comme des opéras hip-hop.
Oresti est un opéra hip-hop. Il y a les codes de l'opéra avec des thèmes qui reviennent, du chant lyrique, il y a des solos, etc. Donc nous, c'était la proposition, c'était celle-là. Et puis c'est marrant de s'appeler opéra quand on est une bande de cancrelats et de mécréants venus du 93 et d'ailleurs. Et voilà, c'était un petit clin d'œil, mais pour nous, il y avait aussi ce truc de n'ayons pas peur de jouer grand, quoi. Et on a joué grand parce qu'on était beaucoup et que ça a été, et puis c'était, ce qui était intéressant, c'est que on avait des gens qui venaient d'horizons vraiment différentes, quoi. C'est-à-dire que il y avait des gens vraiment qui étaient acteurs et qui connaissaient un peu le chant, des gens qui étaient plutôt rappeurs, qui avaient jamais joué au théâtre, et nous on était obligés de faire de créer un lien entre ces gens-là et d'apprendre à communiquer. On répète pas la musique comme on répète le théâtre, jamais, jamais, jamais. Et les gens qui sont musiciens et qui sont sur les scènes de théâtre sont hyper malheureux de voir comment ça répète quand on ne connaît pas ces codes-là, etc. Et nous, il fallait qu'on concilie tout ça, quoi. Donc ça a été hyper intéressant. Et c'est en ça que le travail avec Alain Churin était hyper précieux. Parce que nous, le point de vue d'Oresti, c'est dire aucun des arts n'est plus grand que l'autre. Le théâtre n'est pas plus grand que le hip-hop n'est pas plus grand que le théâtre. On aime autant ces deux arts-là et on veut les faire cohabiter sur scène. Et dans le parti pris de la mise en scène, il y a un énorme, en tout cas en termes d'espace, c'est un gros moment complètement théâtral où il n'y a pas de musique. Et pour moi, c'était hyper important aussi de nourrir le théâtre à cet endroit-là. Et parce qu'il fallait aussi déstabiliser les amateurs de musique qui venaient voir Oresti, tout comme ceux qui venaient voir Oresti, qui étaient habitués au théâtre, étaient déstabilisés par l'omniprésence de la musique, et en tout cas la forte présence de la musique. Et moi, c'est cet amour de ce théâtre-là que je voulais porter et qu'on a porté ensemble dans ce projet. J'aime le théâtre musical, j'aime le théâtre qui raconte des histoires, j'aime le théâtre qui réfléchit à comment il s'adresse aux gens. Et voilà, Oresti est une des illustrations de comment j'aime travailler.
Ouais. Alors, encore une question sur le théâtre. Il se trouve que tu as collaboré, comme Rebecca Chaillant, qui est autour de la table, au collectif Décolonisant les Arts. Dedans, tu écris un texte qui est globalement adressé aux directeurs d'institutions théâtrales, justement pour dire qu'il y a un travail de décolonisation à faire. Et particulièrement, moi, j'ai senti aussi que c'était adressé aux institutions théâtrales, aux centres culturels, aux centres dramatiques nationaux, etc., qui sont en banlieue, en disant arrêtez de vouloir amener une culture et plutôt inspirez-vous des cultures qui sont aussi présentes. Donc toi, Oresti a été à la MC 93, Agamemnon a été au Théâtre de la Colline. Comment tu... Non.
Agamemnon a joué au Théâtre de Chelles, au Théâtre de Nîmes, dans le sud, enfin, on a fait 5-6 dates. Ouais. Oresti a joué à la MC 93.
Oui, d'accord.
Et au Pôle...
Pardon, c'est Félure qui était à la colline.
Félure qui était à la colline.
C'était à Félure, pardon. Ouais, merci Rebecca.
Merci Rebecca.
De rien, je suis là pour ça.
Ouais, et avant aussi peut-être d'en discuter aussi avec Rebecca, de ce collectif Décolonisant les Arts et de votre propre contribution. Quand tu es à la MC 93, alors il se trouve qu'on connaît toute la direction de ce lieu qui est formidable, et puis la direction est aussi formidable. Comment tu arrives à résoudre ce paradoxe au fond que tu pointes toi-même? Est-ce que tu penses le résoudre?
Dans le texte de Décolonisant les Arts, je ne pointe pas les théâtres qui sont en banlieue ou en périphérie, je pointe tous les théâtres.
Oui.
Et je pointe les gens qui continuent de hiérarchiser les cultures. Ça m'épuise. Oh. Oh. Et de dire qu'une culture est plus valable qu'une autre sur des prétextes qui sont incompréhensibles et qui n'appartiennent qu'à eux-mêmes. Et donc, quand un lieu est ouvert sur d'autres cultures, j'ai rien à dire, je suis hyper content et ça fait partie d'une petite graine qui est semée et qui doit pousser. Donc il n'y a pas de paradoxe pour moi à jouer où que ce soit d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui me fait jouer, c'est quelqu'un qui est sensible à... plus ou moins sensible à ce que je peux proposer. Après, moi, je me méfie de ce qui a pu m'arriver par le passé, où finalement, on représente une croix dans une espèce de nomenclature, listant les alibis, etc. Donc, c'est des gens que j'ai un peu sortis de ma vie professionnelle. Ils se reconnaîtront. Et oui, c'est bien de toi que je parle. Non, mais c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, les gens font comme s'ils vous rendaient service. Alors que non, c'est un métier dans lequel les programmateurs ont besoin des artistes et vice-versa. Et c'est pas à sens unique, quoi. Donc non, pour moi, jouer Oresti chez moi, c'était une très très grande fierté. Et surtout que la direction de la MC 93 a changé depuis peu, et Hortense Archambault mène ça d'une belle manière. Ce qu'il y avait avant m'intéressait beaucoup moins.
Je suis assez d'accord, mais je ne sais pas si c'est mon rôle de le dire. Mais
c'est vraiment d'accord. Une autre direction.
Oui. Peut-être un point dont on n'a pas encore parlé. Alors, on est entré par le rap. Hein, c'est quand même aussi comme ça que tu commences ta carrière artistique, enfin, je pense, hein, avec le groupe Cabal, puis en solo d'Ed Cabal, et puis plein de projets collaboratifs, comme il y en a beaucoup dans le hip-hop.
Comme Spock Orchestra.
Par exemple.
Que j'ai découvert il y a 15 ans à Saint-Ouen.
Ouais. T'avais 15 ans?
Non, pas. J'avais 15 ans. Il y a 15 ans.
Je me serais excusé, alors j'aurais dit que t'aurais pas dû être là.
Ma première rencontre avec toi à l'espace 1789.
Donc c'est projets collaboratifs, les scènes slam, mais il y a aussi, depuis maintenant un assez long moment, et peut-être de plus en plus, l'écriture pour le livre. Comment ces choses-là s'articulent?
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Astrid Catala, qui a une boîte d'édition qu'elle gère toute seule, qui s'appelle L'œil du souffleur, que j'ai rencontré il y a 10 ans, et qui voulait éditer un de mes textes, et j'ai réussi à l'embobiner pour qu'elle en publie 7 d'un coup. Et du coup, on s'est très très bien entendu.
Ouais, et c'est rare de dealer aussi bien.
Ouais, moi je suis sans pitié. Ouais. Non, puis je lui ai dit que je venais juste de finir un montage de texte qui n'était pas forcément monté, mais qui, pour moi, était assez cohérent dans le fil de ma pensée. Parce qu'en fait, je jouais ma première pièce depuis quelques temps qui s'appelle L'écorce de peine, qui parle de l'esclavage et des résidus dans la vie d'un Antillais au XXIe siècle. Et je voulais pas être circonscrit à cette thématique-là, donc j'avais écrit d'autres pièces que je voulais rendre accessibles. Et effectivement, ce premier livre a vraiment bouleversé quelque chose en moi, parce qu'en fait, tout d'un coup, les gens avaient accès à ce que je raconte sans que je le performe, alors qu'à la base, tout ce que j'écris, c'est pour être performé. Et ça a vraiment modifié ma façon de travailler, c'est-à-dire que moi, j'ai eu une espèce de creux entre Agamemnon et Oresti, où je voulais absolument finir ce projet et les lieux n'étaient pas intéressés. Et il fallait que je continue d'écrire. J'étais sur une nouvelle thématique. À partir de 2014, j'ai travaillé sur les masculinités, etc. Et ce qui me maintenait en activité, c'était de savoir que ce que j'allais écrire pouvait être lu. Et donc, c'est un énorme travail qu'on a fait avec Astrid Catala pour que avant même qu'il rencontre avec Wajdi Mouad et que Fellure soit géré à la colline en 2019, il y avait ce projet de faire le livre de cette pièce-là et j'avais prévu d'en écrire d'autres. Et donc du coup, ça faisait une nouvelle vie pour les textes et ça a vraiment changé ma façon de travailler, où je pouvais travailler sans m'arrêter et me dire, bon, bah, si je peux monter ce projet, c'est bien, si je peux faire un album avec ça, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est qu'on sorte, c'est que les textes soient accessibles, quoi. Donc on a sorti, je sais pas, 5 ou 6.
Et là, pour le coup, là, les textes de Fellure ou Agamemnon qui sont publiés par l'œil du souffleur, ce sont les textes de la pièce ou c'est un autre travail?
Non, c'est les textes de la pièce.
Voilà, c'est le.
Voilà. C'est les textes de la pièce avant les dernières coupes qu'on effectue sur le plateau. Voilà.
D'accord. Alors, tu viens de parler de ce projet sur la masculinité. Hein, tu viens de me donner ce livre qui s'appelle Le masculin dans sa relation au féminin à lui-même. On peut aussi parler peut-être de cette pratique-là, qui est une pratique plus peut-être militante et de réflexion théorique aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Il y a pas mal de textes, de chansons qui renvoient aux violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui t'a amené à ce projet en 2016 et en quoi il consiste?
Alors, ce projet-là a commencé en écriture en 2014. Où finalement j'étais arrivé à une espèce de zone un peu bizarre où en ayant travaillé pas mal sur le racisme, sur l'esclavage comme j'avais dit, etc., sur les stigmatisations, etc., je me suis posé la question de ma propre place et je me suis dit voilà, sur ces questions de stigmatisation, de racisme, etc., je suis une victime potentielle et est-ce que je peux parvenir à me déplacer et à m'envisager en tant qu'agresseur potentiel? Et je me suis posé la question du masculin. Ça, c'est une première entrée. Ensuite, je suis père de famille, j'ai des enfants, des garçons, des filles, et se pose la question de qu'est-ce qu'on transmet. Et se pose la question de ce qu'on a reçu. Et là, ça commence à percuter, ça commence à se compliquer. Ensuite, j'ai toujours travaillé sur les blessures intimes, les blessures de l'enfance, et je me suis dit qu'il y avait un lien entre tout ça, et j'ai commencé à creuser, et je creuse toujours, et j'en ai pour un moment.
Et j'ai l'impression tu as créé une forme de laboratoire itinérant, hein, c'est
alors,
ça, collectif?
Il y a eu la création d'une première pièce qui s'appelle L'homme-femme, les mécanismes invisibles, qui a joué entre 2015 et 2016, début 2017. Et suite à ce spectacle-là, des hommes sont venus vers moi et m'ont dit « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?» Et j'ai réfléchi et j'ai monté ce projet qui s'appelle aujourd'hui Laboratoire de déconstruction et de redéfinition du masculin par l'art et le sensible, où c'est des groupes d'hommes non mixtes qui discutent et qui échangent et qui essayent de fabriquer autre chose que la masculinité qui est la leur, avec un point hyper important où il ne s'agit de parler que d'intimité et de sens. On n'est pas là pour faire des débats politiques, sociétaux. On parle de nous, nos expériences dans l'intimité et de ce qui ne va pas et ce qu'on a envie d'interroger. Et bon, évidemment, c'est très compliqué d'en parler parce que ce qu'on se dit dans ces cadres-là est très très privé, mais voilà. Et le plus vieux groupe, ça fait 3 ans qu'on se réunit. On entre dans la 4e année, c'est des réunions mensuelles. On a fait ça au Canal 93, à la MC 93. Il y a un groupe qui a commencé à La Colline. On a fait ça à différents endroits, 2 années de suite à Kourou en Guyane, en Martinique. Et c'est devenu un espace très très intéressant, enrichissant, perturbant aussi. Et il y a quelque chose là qui est hyper intéressant où finalement je me rends compte que une fois qu'on arrive à créer un espace suffisamment sécurisé pour que ce type de parole existe, il y a une parole qui existe avec laquelle on travaille et c'est très très intéressant, très perturbant mais très intéressant.
Rebecca, toi tu mentionnes dans ton texte, dans Décolonisant les arts, l'importance qu'a eu le camp décolonial par exemple pour toi. Est-ce que ça fait écho ce que dit Edith Cabal sur ça?
C'était super de pouvoir lire les différents textes des différents artistes mais c'est vrai que celui de D m'avait beaucoup touchée puisque je suis aussi metteuse en scène et dans une démarche d'aller rencontrer des programmateurs, des programmatrices et que c'est très compliqué en fait d'amener son propos et de pas se retrouver manipuler, hein, l'endroit où tu as envie que le propos y soit posé, donc un propos qui peut être décolonial, antisexiste, anti-homophobie et tout ça, et que tu as l'impression parfois de pouvoir être utilisé. Donc c'est vrai que ça m'avait fait une adresse assez forte. Et les camps d'été, oui, enfin moi ça avait été des révélations énormes d'avoir accès si tard. Hein, à 30 ans à des espaces de déconstruction politique.
C'est donc, d'ailleurs comme ça que tu le présentes aussi,
déconstruction. Et Taïn, elle me disait, voilà, elle disait quand tu parlais de tes groupes, là, que tu as créé des laboratoires, elle disait enfin.
Parce que, ah, carrément.
En fait, même là, c'est encore beaucoup un groupe assez hétéro et cisgenre.
Ça bouge.
Ça commence à bouger. Ouais. Parce que du coup, il y a aussi voilà, ces paramètres-là qui. qui vont commencer à devoir rentrer ou des questions même de croisement avec des questionnements raciaux sur ces questions-là qui vont être importants, je pense, de traiter et qui devraient se multiplier. Donc c'est hyper chouette que ça existe, que ça existe à Bobigny, que ça existe là à la Colline ou dans plein d'autres endroits. Et, enfin, voilà, je sais qu'avec RERQ, c'est des choses... de semer des graines comme ça, de créer des collectifs, des endroits de réflexion, de déconstruction, et avec de la production artistique, comme tu peux faire avec Fellure ou avec tes autres spectacles. Ben voilà, c'est un objectif. Non,
c'est pour ça que je te posais la question, parce qu'en discutant avec Dave Cabal, j'entendais des échos assez forts avec ce que j'ai pu entendre du collectif RERQ, positionné différemment, quoi, hein, sur aussi des espaces non mixtes à des moments qui permettent de libérer une parole et de l'approcher par l'art et le sensible, quoi. Mais d'ailleurs, peut-être pour aussi vous associer, tous les deux, vous avez été associés dans cette publication qui est importante, qui s'appelle Décolonisons les arts. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler, l'un et l'autre, de votre intervention dans ce collectif, dans ce moment de réflexion important.
Ouais, bah, ouais.
Alors tous les deux, vous parlez de là de votre point, hein, c'est-à-dire du théâtre. Donc ouais. Rebecca, toi, tu le parles plutôt comme performeuse.
Oui, j'en parle comme performeuse, autrice, metteuse en scène, et donc d'abord éduquée à la culture blanche, à une sorte de culture qui serait majoritairement blanche. Et voilà, en ayant fait des études de théâtre à la Sorbonne, où j'ai jamais, à part quand j'ai fait un cours spécifique de dramaturgie africaine, entendu parler d'auteurs, d'autrices, de metteurs en scène ou de metteuses en scène noires. Enfin, en tout cas, pas de manière évidente, quoi, comme une sorte d'exception. Là, l'invitation, elle s'est faite... Donc, il y a un collectif qui s'appelle Décoloniser les arts, qui est mené principalement par Leïla Kuckerman, Gerti Dambury et Françoise Vergès, qui ont réuni comme ça pas mal de personnes du spectacle vivant pour mener des différentes actions. Je crois que la base, c'était d'intervenir pendant Exhibit B, qui était une performance, exposition, une installation performative qui était assez problématique pour plein de questions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais et elles ont eu l'idée de proposer à une quinzaine d'artistes de décrire depuis leur position, voilà, chanteuse de l'opéra, metteur en scène, auteur, enfin, des gens du spectacle vivant pour écrire sur les différentes difficultés et leur, on va dire c'est plus un état des lieux de la situation du spectacle vivant en France.
Voilà. Et d'ailleurs, un peu de la même manière, toi, dans ton texte, tu commences par dire un jour, je me suis demandé combien de metteurs et metteuses en scène d'origine antillaise jouaient une de leurs créations dans un cercle dramatique national dans la même année. Et il n'y a pas de réponse, hein. Tu te le demandes, mais on comprend que la réponse.
On n'est pas beaucoup.
Voilà, qu'on n'est pas beaucoup et que c'est ce travail qui est un travail un peu militant à faire. Peut-être j'aimerais aussi te poser une question. Tu as beaucoup fait de textes d'intervention politique sur le moment. Hein. J'en ai, par exemple, sur l'état d'urgence, une lettre adressée à Bernard Cazeneuve. Et Christine Taubira, est-ce que ces formes-là, tu les travailles encore ou c'est en ce moment mis entre parenthèses?
C'était une période où c'était important de réagir pour moi. Et aujourd'hui, travaillant plus sur les masculinités, etc., je trouve qu'il faut se méfier du trait d'humeur. Il y a beaucoup de pièges. Et puis j'ai surtout l'impression que, paradoxalement, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un travail qui doit se faire discrètement et silencieusement. Il n'est pas question pour moi d'occuper l'espace pour dire bonjour, je me déconstruis, je suis super en forme, c'est génial. Et c'est un peu paradoxal parce que du coup, on ne participe pas au débat collectif, mais j'ai le sentiment que pour éviter de reproduire des schémas de domination sans s'en rendre compte, il ne faut pas trop prendre de place. Ouais. Donc, on avance silencieusement. Ce qui se passe autour de nous nous enrage, mais on avance.
Et peut-être que les modèles de laboratoires de réflexion permettent aussi d'avancer, ou les participations à des collectifs comme ça.
Oui, mais c'est comme on est sur... vous savez, le problème, c'est que à partir du moment où un homme prend la parole pour dire qu'il est un homme meilleur, c'est déjà super compliqué.
Oui, c'est, il va être plus médiatisé, peut-être plus produit comme un truc extraordinaire, parce qu'on a l'impression d'entendre les femmes ou les victimes se plaindre plus et qu'elles prennent de l'espace, sauf qu'elles prennent un espace qui est invisible, en fait, qu'il n'y a pas de moyens de matériel mis en place. C'est des initiatives super, et c'est vrai qu'il y a un truc de discrétion presque qui fait partie de la stratégie à avoir pour ne pas écraser encore et reproduire... Ça, là, c'est des gros lieux. C'est la scène nationale.
Oui,
énorme.
Mais c'est des petits groupes.
Non, je parle des endroits théâtraux, quoi. C'est-à-dire que c'est le théâtre national, un des six théâtres nationaux, et puis une des plus grosses scènes nationales de France qui mettent des moyens pour faire vivre ça. Il faudrait que qu'il y ait aussi des moyens qui soient apportés et visibles et artistiques qui soient apportés à des groupes, à d'autres types de groupes en non-mixité. Je trouve que c'est important que ça cohabite et que l'un prenne pas le pas sur l'autre.
Donc je vous encourage, dans le public et chers auditeurs, à lire ce Décolonisant les Arts. Les deux textes sont très passionnants, ils ont deux registres de discours très différents. Celui de Rebecca est plus peut-être personnel, intime, sur un parcours, hein, qui raconte, tu finis par ces deux phrases, hein, sur scène, il faut tenter de réparer sur scène ou d'aggraver les choses. Je trouve que ça dit bien ce travail-là, comment tu as investi ton corps sur scène, à la fois pour réparer une blessure qui est une blessure à la fois historique et dans le présent, et comment, en aggravant les choses, on les fait voir aussi autrement. Enfin, j'imagine que c'est comme ça que
tu... On pourra plaire à personne. Enfin, on pourra pas plaire à tout le monde, du moins. Ouais. Donc, si on fait du politiquement correct ou de la réparation pure, il y a des gens qui vont... voilà, moi, je suis les pieds dans le... Enfin, je sais pas, je pense que toi aussi, un pied dans l'institution et parfois un pied aussi dans, on va dire... sur la terre, enfin dans l'underground, dans la...
Vous avez
dans...
tous les deux votre compagnie, d'ailleurs, hein, ouais. L'un et l'autre.
Moi pour info, sur mon dernier spectacle qui joue à la Colline... j'ai pris le parti de ne convier aucun programmateur, aucune programmatrice. J'ai besoin de jouer pour les gens. Et quand on est comme je suis et qu'on joue pour les programmateurs, à un moment donné on est fatigué, quoi. Et donc moi j'avais besoin de récupérer quelque chose, et c'est un peu on m'a un peu dit ouais, enfin tu joues là, ça y est, tu joues un mois, et tu... Eh ben non, j'ai pas voulu, et ça s'est très bien passé, enfin, pas en termes de programmation parce qu'ils viennent pas, mais du coup c'était hyper important pour moi de récupérer quelque chose après l'aventure d'Oristie qui m'avait fatigué, etc., et de jouer vraiment pour les gens qui ont envie de faire ce spectacle là et de me préoccuper que de mon art et de ce que j'ai envie de fabriquer. Et puis j'ai fabriqué un ovni qui me ressemble, et c'est très bien comme ça.
Mais ça nous dépasse, pardon, je voulais juste dire, non, ça peut nous dépasser, parce que jouer à la Colline, de toute façon on sait qu'il y aura des programmateurs, on sait qu'il y aura un public qui est un public privilégié, qui a l'habitude d'aller au théâtre et qui connaît enfin la Colline a une programmation par exemple toute l'année. Donc du coup, même s'il y a un ovni ou quelque chose qui arrive là, on sait que malgré nous il va y avoir un public, il va y avoir des retours qu'on ne maîtrise pas et qui sont très difficiles, je trouve, quand on veut justement faire un pas de côté dans l'institution, qui sont très compliquées. Enfin, je trouve, moi, de mon point de vue, quand je joue en CDN, je joue au CDN de Rouen, je suis associée là-bas. Je sais que même si je suis noire, que je raconte des histoires noires, de noires, de femmes, de lesbiennes et tout ça, je sais que je vais quand même majoritairement avoir affaire à un public qui ne se sent pas encore légitime à aller voir ça. Donc c'est un combat, un double combat, je trouve, tout le temps. Du coup, c'est chouette d'avoir cet objet-là, comme Décolonisons les Arts, ou plein d'autres objets qu'on fabrique un peu partout pour...
Pour moi, il y a deux choses différentes entre public, c'est-à-dire que ce sont des centaines d'histoires qui convergent en un point pour écouter une autre histoire, et les programmateurs, dont c'est le métier de programmer, etc., qui, eux, de toute façon, ont une rhétorique installée pour politique d'évitement, de « je peux pas », de « ça va trop vite », etc., qui est encore autre chose. Et c'est vraiment ça dont moi, j'avais pas envie d'y aller avec cette partie-là. Mais je trouve ça super intéressant, justement, ou même après l'espèce de bilan qu'on a fait avec la Colline après Fellure, où il y a un autre public que d'habitude qui est venu aussi voir le travail, parce qu'il connaissait mon travail. Enfin, c'est aussi intéressant de mélanger ces choses-là. Et je me suis rendu compte aussi que moi, ce qui m'intéresse depuis une vingtaine d'années, c'est d'aller dans des endroits où on m'attend pas. Et de rencontrer des gens que je ne rencontrerais pas dans la vie basique, classique, normale, entre guillemets, quoi. Et pour le moment, le théâtre reste le meilleur endroit en ce qui me concerne, donc je continue.
Alors, j'ai conscience qu'on est déjà en retard, mais je pense qu'il ne fallait pas couper cette conversation. Et je voudrais juste peut-être faire un dernier mot, te poser une dernière question. Peut-être aussi un engagement qui est plus sous-jacent dans ton travail, c'est celui de la transmission des ateliers, de l'enseignement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce travail? Est-ce que c'est un travail sur l'écriture, par exemple, que tu fais avec
Ça, je le fais de moins, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup fait par le passé, et je préfère... passer le relais à des gens qui ont plus envie de le faire. Moi, je l'ai beaucoup fait, mais je suis beaucoup dans des ateliers de discussion. J'ai travaillé aussi sur les masculinités avec des jeunes collégiens, sur les représentations, sur le sexisme. Voilà, pas mal de choses un peu différentes et de pratiques artistiques. Là, j'entre en résidence dans un collège, au collège Fabien à Saint-Denis, dans un dispositif qui s'appelle In Situ, où l'artiste est sur place pendant une semaine par mois. Et donc, j'entre en résidence sur 2 ans. Et j'ai envie et de travailler avec les élèves et les parents et l'équipe enseignante, et de réfléchir à ce qu'on peut construire ensemble, etc.
Merci d'être cabale.
Merci.
Alors, on arrive à notre moment de bascule, qui est le moment de bascule RERQ. Donc c'est à vous.
Non, juste pour représenter RERQ pour ceux qui n'étaient pas là toute la semaine. Donc RERQ, on espère faire quelque chose de l'ordre de la déconstruction, nous aussi, en reprenant un art antique qui est le porno. Et tu parlais de remake, et on a parlé pas mal de déconstruction et de remake, et du coup il y a quelque chose, nous, où on a envie d'expérimenter voilà, des choses, un mouvement littéraire expérimental autour du porno, dans un groupe, on va dire, en non-mixité, gwyn, queer, trans, non-binaire. Donc là, ici, donc on est 4 du collectif sur 6, avec Eita Innsver, Claire Cornu, pardon, Camille Cornu, Claire Finch et moi-même, Rebecca Chaillon. Et on voulait vous lire un extrait de notre petit fanzine. Quelqu'un veut expliquer le fanzine, peut-être ?
Et je pense que c'est une bonne transition en 2D aussi, parce qu'on parlait beaucoup de ces formes qui permettent beaucoup. Donc on a parlé du théâtre et de la pièce et l'opéra comme des formes qui permettent beaucoup de choses et permettent de aussi mixer des codes. Et là, on a essayé de mixer des codes de la petite annonce, des codes classiques de la sous-culture Gwyn et aussi SNM. Et donc on a fait un exercice littéraire qui est à la fois les petites annonces, mais aussi des consignes littéraires. Et l'idée, c'est que les gens puissent répondre. Donc, idéalement, il y a eu des réponses. Il y a eu des gens qui ont eu du sexe avec cette petite annonce. Donc, on va lire quelques-uns maintenant. C'est moi qui commence. Annonce numéro 20. Cherche babysitter. Horaire flexible. Selon résultat, pécho sur Tinder.
Annonce numéro 2. Signe d'air mais nul en astro. Fan de poésie concrète et mangeté des pavés. 669 idées minutes, donc immanquablement en retard. Fétichiste du nez et bien outillé. Cherche partenaire serein, sereine et inépuisable pour épuiser nuit rose. Monter groupe de noise et ultra rêvé sous ayahuasca. Esprit d'escalier, drama TPG et amateur triste de violet, s'abstenir.
Annonce numéro 6. Je voudrais un amour passionnel, inconditionnel et éternel. Je sais que c'est impossible, du coup je ne recherche rien. Mais c'est toujours bien de trouver quelque chose. Il faudrait quelqu'un qui ne soit pas trop là, mais qui soit toujours là. Qui sache crocheter une serrure ou construire des cabanes pour pallier à ma phobie de perdre mes clés. Et ne sache pas ouvrir les noix de coco pour que je me sente valorisée parce que c'est la seule chose que je sache faire. Longue distance acceptée, sauf si vous vivez à Glasgow.
Annonce numéro 3. Cherche un ou une psy queer qui a envie de baiser entre ses séances et qui veut me raconter gratuitement de la théorie psychoanalytique féministe tandis qu'elle me fiste. Mais pas de Lacan, merci.
Annonce 15. Moi, animal lactaire non vegan, à mamelles charnues mais tombantes, façon gants de toilette propre. Cherche main solide pour soutien-gorge humain. Traite à 17h chaque jour. Cherche main sale pour faire de ma peau un torchon brûlant. Main menue pour couvrir 10% de ma surface de fesses. Crocs autorisés dans la partie grumeleuse. Main rugueuse ayant exercé la plomberie plus d'une fois. Doigts tendus, détendus, démontables, rétractables, gogo gadget au poing. Doigts humides et sensibles bien accrochés. Ongles permis s'ils sont laqués comme des canards. Cherche main d'avenir aux lignes fortes et qui promettent un destin palpitant plein d'aller-retour en Ouigo pour s'aimer à distance. Main non susceptible qui accepte de se voir remplacée par des jouets sexuels au nom de voitures de course ou par des butternuts selon la saison. Main organe et paume amplifiée pour sentir mon cœur battre en dedans. Main qui roule de l'herbe dans des feuilles. Main waterproof, réceptacle à jouir quand je sors de ma prison mentale. Main de milf déconstruite. Main carnée en contraste. Main bavarde signant sur mes étendues. Main muette, main rythmée. Main assurée à Niort et non sinistrée par d'autres usagères. Main gauche, avec annulaire dispo, sachant écrire des vœux d'amour éternel.
Annonce numéro 2. Numéro 2. Top Switch FTX niveau intermédiaire, adepte de griffure, flagellation et morsure progressive bien située. Recherche top niveau avancé pour progresser. Ouverte à découvrir plein de nouvelles pratiques, dont peut-être même le romantisme, mais allons-y doucement. Si tu me plais, je te prendrai en photo et te ferai lire mon roman en cours.
Merci. Tu voulais dire quelque chose ?
Juste un tout dernier avant de vous balancer.
Oui,
Tendre est la nuit, mais pas en solo.
Where art thou?
Pizza porno.
Donc vous pouvez nous répondre sur notre mail rerq@gmail.com.
Exactement. Et puis on voulait demander, et toi Lionel, qu'est-ce que toi tu rechercheras dans la littérature?
Qu'est-ce qui t'excite et quelle annonce tu ferais?
Alors, ma fille est dans le public.
Non, mais en littérature, bien sûr.
En littérature, hein, donc je ne répondrai pas à une annonce. Mais par contre, moi, je vous encourage tous à répondre, hein, ces annonces, en fait. C'est un des rôles de la littérature d'envoyer des messages et de recevoir une réponse. Donc, n'hésitez pas. Merci au collectif RERQ, à toutes les quatre. On va passer à notre dernière séquence aujourd'hui. Comme tous les soirs, on accueille un primo-romancier. On appelle, c'est une catégorie à part. Ça pourrait être dans une sorte d'encyclopédie entomologiste, hein, le premier romancier. Je suis sûr que ça parle à Guillaume Sorensen, qui a eu une sorte de goût encyclopédique comme ça. Donc, l'auteur qu'on reçoit ce soir, c'est Guillaume Sorensen, qui vient de faire paraître Le Planisphère Lipski aux éditions de l'Olivier. Alors, c'est un roman que j'ai trouvé vraiment passionnant, très étonnant, très, 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 très original. C'est une expédition faite par un jeune homme de bonne famille bruxelloise qui, alors qu'il est promis à un brillant avenir comme sa famille le souhaiterait, fait de la philosophie, ce qui est déjà bizarre. Et il ne fait pas Sciences Po derrière. Et donc, son père finit par lui proposer, parce qu'il paye une expédition pour découvrir des espèces migrantes plutôt en voie de disparition, écrire un rapport de l'ONU, et il s'embarque donc avec un petit groupe très très baroque pour aller sur découvrir ces espèces. Alors, comme on est ici, moi, dans une émission de rentrée littéraire, une émission sur la fabrication d'un livre, sur la fabrique du littéraire, d'où ça vient cette histoire complètement abracadabrante et vraiment tordante?
Alors, moi je suis arrivé dans le master de création littéraire avec un personnage
du Havre, hein, je précise.
Oui, exactement. Big up à tous les camarades qui sont présents aussi sur le festival. En fait, ce personnage-là était une sorte de... il présentait en fait une sorte de catalogue, la redoute de convictions ou de convictions assez fortes, et il épluchait les rubriques nécrologiques pour choper les gens faibles d'esprit et les impliquer dans les convictions qu'il essayait de leur fourrer dans le crâne pour obtenir des royalties en fonction de pour qui il bossait. Donc ça, c'était le point de départ, et finalement ça tournait en catalogue des convictions au XXe siècle, ou en tout cas des principaux débats au XXe siècle. C'était pas très intéressant, et je me sentais pas légitime non plus pour explorer tout ça, et je me suis demandé qu'est-ce qui allait se passer si je prenais l'inverse, c'est-à-dire de quelqu'un qui maîtrise le sens ou qui en maîtrise une des fonctions, à quelqu'un qui est totalement assujetti et n'y arrive pas du tout. Donc là, c'était vraiment le renversement au départ, mais j'avais toujours pas de mouvement à lui imposer à ce personnage, et complètement abattu, je prends une des revues que j'adore, qui est la revue Relief, qui est une revue dédiée aux explorations modernes, aux limites modernes de l'être humain. Donc il va y avoir des numéros sur les abysses, le grand froid, et celui-là c'était sur les galaxies, donc l'espace. Et la première page, ou une des premières pages de la revue, c'était une carte avec des animaux migrateurs, donc les crabes d'Indonésie, la baleine, la cigogne, etc. Et là je me suis dit, il y a un truc qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Et donc j'avais ce personnage, j'avais un post-it avec une quinzaine d'animaux, et c'est parti de cette rencontre-là, en fait.
Alors peut-être on va t'écouter un peu, parce qu'il y a une inventivité formelle et linguistique dans ce livre qui est vraiment assez impressionnante. Alors je ne sais pas si dans le passage on le remarquera, mais on va t'écouter en lire un petit passage.
D'accord. L'équipage approchait des côtes de mon enfance, de ce gris-là, de ce gris si particulier, un gris de poney, de crevettes, d'impair jaune, de filets, de gilets rouges, de rafales pleines de sable. Ce gris de course pieds nus, de brassards orange fluo, de sel et de vase crachés en riant, de chute dans le sable avec un passe-droit. Pour une fois, la gravité serait sans conséquence. De compote pomme-banane, pomme-rhubarbe, pomme-fraise, pomme-nature, et les tartines pâté-crème à travers la glacière, et les briques bleues des glacières. J'étais là, quelque part, peut-être pas ce grain-là ou cet horizon-là, mais bien les rigoles, les murailles, la pelle, la peau-pelle, rougie et pelle, le sable déplacé par moi et mon père, le vent et la mer qui le remet à sa place, et l'on est fatigué tous les deux d'avoir déplacé le sable. J'aime la mollesse réversible du sable et de la vase, ce qui glisse, colle, sous et à travers les doigts, et le même geste, mais seul. Je débarque sur la plage, cherche à repérer l'animal pour lequel je suis là, j'ai les pieds dans l'eau, le retour des pieds dans l'eau. Je trouve le phoque. Il n'a pas l'air de bouger près de moi, le phoque. Je me suis approché, Je prends la position absolue de celui face au phoque, absolument face à lui. Je vois les yeux noirs et les vibrisses fourchues. Il bouge un peu. Est-ce le vent ? Est-ce lui-même ? Il est là. Le soleil l'attaque.
Merci. Alors, ce qui m'a frappé en lisant ce livre, c'est qu'il est à la fois ultra contemporain, même si je déteste cette expression, mais dans son vocabulaire, dans ses manières de connecter les moments narratifs. Et en même temps, il y a quelque chose, je ne dirais pas de désuet, mais qui joue un peu là aussi sur un remake du roman du 19-20e, début du 20e, bien sûr par le récit de l'expédition, mais aussi ce qu'on a appelé parfois le roman célibataire ou les célibataires de l'art, c'est-à-dire ces personnages un peu à la Bartleby qui ont une capacité soit d'écriture, soit d'invention, soit de création, et qui n'en font pas grand-chose, et qui par ailleurs tournent autour un peu du pot. Alors, est-ce que ça faisait partie de ça ? Est-ce que c'est des choses que tu lis, par exemple, ça ?
Oui, Bartleby, j'ai dû relire un demi-milliard de fois.
D'accord.
C'est quelque chose, c'est des livres ressources, enfin, c'est des choses auxquelles je reviens assez souvent. En fait, c'est venu de la confrontation de deux choses. D'une part, ce désespoir que j'appellerais le désespoir propre, c'est-à-dire cette espèce de jeunesse qui a trop de choix, qui ne sait pas quoi faire, qui a toutes les cartes en main pour réussir ou faire quelque chose d'intéressant, mais qui fout tout en l'air parce qu'elle n'est pas préparée à affronter la vraie vie. Et c'est un désespoir qu'on cache aussi, c'est-à-dire il faut surtout pas dire devant la dinde de Noël, la grand-tante, etc., que le gamin est dépressif. Donc il y a vraiment ce côté-là qui m'intéressait, ce désespoir pas du tout clinquant, pas du tout fait d'alcool ou d'excès ou de quelque chose de démonstratif. Et d'autre part aussi cette espèce de confrontation entre ce que je dirais une tradition plus américaine, tragicomique, type Tom Robbins ou David Foster Wallace, avec des trucs complètement dingues, et en même temps cet amour que j'ai d'une langue très très classique, type Pierre Michon ou Louis-René Desforêts, et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui combinait les deux, et c'est quelque chose qui ces deux traditions dont je voulais pas du tout je voulais pas sacrifier l'une pour l'autre et inversement. Donc c'est vraiment deux endroits que j'apprécie énormément, et le carrefour m'intéressait là aussi.
Comme on a reçu, en fait, comme Emmanuel Pierre était là avant-hier, je crois, hein, c'est une chimère donc de David Foster Wallace et de Louis-René Desforêts ou de Pierre Michon, ce livre.
Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ouais. C'est gentil.
Ah ouais, c'est ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a amusé en le lisant, et qui m'a amusé parce que j'aime bien lire des livres qui critiquent ce que je peux faire. Et par exemple, il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce qu'on appelle, nous, je vois Yves Citon en face de moi, Nancy Murzilli est pas loin, la recherche-création. Le petit groupe qui se met en place dans ce livre, c'est un groupe, c'est une expédition scientifique, mais dedans, il n'y a que des hipsters artis, pratiquement, et qui vont faire des choses très bizarres, faire sonner des cloches dans le bateau pour voir ce que ça fait. Là aussi, c'est quelle est la rencontre des... Et parfois, c'est vrai que je me suis dit en lisant, c'est vrai que parfois, nous, dans des démarches artistiques, on veut avoir une approche scientifique, mais c'est un peu n'importe quoi.
Ça m'intéressait pour la loufoquerie des personnages, et surtout de pas arriver avec... Moi j'aime bien l'idée d'une congruence qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire une confrontation entre deux personnages qui plantent une logique et qui vont jusqu'au bout de la logique, quitte à ce qu'il y ait des clashs, des confrontations entre eux, etc. Et je trouve qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui est complètement à l'ouest, ou complètement décalé, ou qui est complètement illégitime. C'est juste qu'effectivement, quand on prend quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la recherche-création ou de ce milieu-là, et qu'on le plante devant des gens qui ont déjà une pratique très forte, très assurée, comme un peu les membres de compagnie théâtrale que je présente dans le roman, forcément, ça crée des incompréhensions, parce que l'un n'a pas le code de l'autre, et l'autre n'a pas le code de l'un. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir ce que ça donnait quand ces gens-là se confrontaient et étaient obligés de vivre tous très serrés sur un bateau et tous ensemble pendant une longue période de temps.
Tu me disais avant qu'on vienne ici que c'était aussi quelque chose que tu avais vécu en ayant été étudiant à Louvain, et puis en ayant rejoint le Master de création littéraire du Havre, une sorte de confrontation aussi qui avait pu nourrir cet espace imaginaire.
Complètement, quand on vient d'une université très très ancienne, qui a une tradition très lourde, une vision de la littérature très... peut-être bourgeoise, le terme est un peu exagéré, mais il y a vraiment quelque chose de ça, où on est tout petit, on a une fourmi dans une très grande fourmilière, on doit la fermer, pas s'exprimer, et avaler tout ce savoir qui vient de manière très verticale, arriver dans une école d'art où tout est horizontal, on tutoie les profs et où il y a quelque chose de... Moi, j'ai eu du mal à m'habituer au départ. C'est vraiment une culture que je ne maîtrisais pas du tout et qui m'a vraiment passionné. Après, ce qui était bien aussi, c'était de décricoter complètement les images d'Épinal que j'avais pu voir dans des séries télé ou des choses comme ça. C'était vraiment une occasion de me confronter à un monde que je ne maîtrisais pas du tout et qui m'a complètement retourné la tête et qui m'a appris qu'on pouvait aborder les lettres, l'écriture et l'art d'une manière que je ne soupçonnais pas, en fait.
Il y a aussi dans ce roman un jeu sur les langues, sur plusieurs langues, sur le français, l'allemand, sur le wallon aussi, qui est assez intéressant. Les noms aussi sont assez signifiants. Hein. On a un Flash Fasung, un Eddie Manhattan. Peut-être tu peux nous parler de ce jeu un petit peu sur les noms et sur les langues.
C'était pas très... j'espère, enfin, je suppose qu'on peut y voir une intention, mais c'était pas quelque chose de très organique. Je viens de quelque chose d'extrêmement métissé. Mon père est danois, ma mère est française d'origine polonaise. Ils ont travaillé au Luxembourg, on habite en Belgique, je vais souvent en France, j'ai de la famille en France. Donc c'est vraiment le contact. Je suis transfrontalier, enfin, je suis très proche de la frontière luxembourgeoise, belge, allemande et française. Donc je peux très bien aller faire les courses dans un endroit où on parle trois langues et revenir. Et donc pour moi, le côté multiculturel, multilinguistique est venu de manière assez naturelle. Et c'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'ai l'impression que typiquement, bon, moins maintenant, puisqu'il y a un changement de perspective, mais c'est vrai que le côté très normatif de la langue peut être très, très, très étouffant, plus en France qu'en francophonie. Enfin, j'ai l'impression, je fais de la sociologie sauvage, hein, je dois vexer 10 personnes à la seconde.
Non, tu dis que c'est plus en France qu'en francophonie. Oui, non, c'est évident. Je pense que c'est évident pour tous les Français.
Et du coup, je tenais vraiment à garder cette particularité et à mélanger les langues, montrer qu'il y avait plusieurs origines, plusieurs choses et des délires complètement dingues. Dans le roman, on fait la connaissance de toutes ces villes au Wisconsin qui ont été fondées par des émigrés wallons au 19e siècle. Il y a un Brussels dans le Wisconsin, il y a un Luxembourg dans le Wisconsin, il y a un Namur dans le Wisconsin. Faut le savoir, c'est super intéressant. Il y a plus de locuteurs wallons aux États-Unis qu'en Wallonie. Donc,
il y a d'ailleurs un passage, ouais, de deux ou trois pages, pratiquement écrites entièrement en wallon.
Je t'ai fait un gros coucou à Florence Compagny qui a eu l'amabilité de traduire ces passages en gommais. Hein, parce que le wallon n'est pas du tout standardisé. Et c'est du gommais, ce qui est totalement improbable, puisqu'il n'y a pas d'émigration gommaise au 19e siècle. Donc ça, c'est le détail que 10 linguistes dans le monde sur lesquels ils doivent tiquer. Mais donc, il y a cette communauté qui est wallonophone, je ne sais pas si ça se dit, aux États-Unis. Ça m'intéressait de montrer aussi cette richesse-là dans le roman.
Et ce Eddie Manhattan, tu peux en parler un petit peu? C'est une figure un peu étrange d'artiste, un peu à la fin nécro, je sais pas, intéressé par la mort, quoi.
Oui, nécrophile, le terme peut prêter à confusion, je pense que voilà. Mais c'est parce que je m'étais beaucoup intéressé à une pratique de photographie qui a, à ma connaissance, pratiquement totalement disparu, qui est la photographie post-mortem, qui était pratiquée jusqu'au début du 20e, où on avait des gens qui mouraient très jeunes, enfin. On en a encore aujourd'hui, mais il y avait cette volonté, par exemple, de photographier un bébé qui venait juste de mourir pour qu'il y ait une trace, en fait. Et donc ça m'avait passionné. Et ce personnage d'Eddie Manhattan, qui est un photographe contemporain totalement imaginaire, c'est sa quatrième grande exposition, sa quatrième grande marotte photographique, c'est la photographie post-mortem. Donc ça m'intéressait d'avoir ce personnage-là qui vient aussi d'origine... qui est trans à la base. Enfin, je l'évoque juste, je ne me sens pas du tout légitime d'en parler plus avant, mais voilà, qui a cette biographie, cette pratique-là, qui va servir un peu de mentor au héros qui a absolument aucune connaissance du monde en dehors de son milieu de base, qui est la bourgeoisie blanche bruxelloise friquée. Donc c'est un contraste entre les deux. Lui, il est jeune, connaît rien du monde et vient d'un milieu hyper étriqué.
Il est schopenhauerien,
ouais, voilà.
C'est sa référence principale.
Complètement. Et l'autre, en face, qui a un mentor qui est beaucoup plus âgé, beaucoup plus installé et qui a une pratique de ces questions-là beaucoup plus fine que lui.
Alors, en même temps, dans ce petit groupe, il va faire une étude sur la migration et sur des espèces disparues, qui sont évidemment des sujets très sur le, au centre de la table de discussion, mais est-ce que toi tu voulais en faire une sorte de symbole des débats d'aujourd'hui?
Ah non, pas du tout, c'est pas du tout un roman à thèse, d'ailleurs ça, ça me...
Tout non, ce ça est, ne l'est pas, hein, je peux confirmer.
Tout ce qui est roman à thèse, ça me gonfle au dernier degré, mais non, c'était vraiment... Moi c'est une de mes marottes, j'adore, on parlait de sexualité tout à l'heure, il faut savoir que la sexualité des dauphins est par exemple extrêmement passionnante. Ils ont une sexualité complètement pétée, c'est assez hallucinant. C'est les chimpanzés aussi, et ça m'intéressait d'intégrer cette espèce de collection que j'avais de détails sur le monde animal, sur cette espèce de bizarrerie qu'on croit toujours complètement humaine, alors qu'il suffit de gratter 30 secondes pour se rendre compte qu'on n'est complètement pas unique du tout, justement, et que dans le monde animal, il y a vraiment des choses complètement extraordinaires qui s'accumulent, qui peuvent s'observer et complètement bouleverser notre vision un peu d'Épinal, de cette espèce de truc qui ressemble à moitié à une pub pour de la lessive et à moitié à un carton de lait avec de l'herbe dessus, où le monde animal serait pur et gentil et merveilleux, et nous, on s'appuierait avec la culture pour tout détruire. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ce que je voulais... comme approche, une approche d'empathie vers l'animal qui pour moi est vraiment l'alien de notre planète, en ce sens que il y a un langage, il y a quelque chose qui se passe, c'est un autre, c'est une altérité, mais on ne peut pas utiliser notre langage pour y accéder, en tout cas pas loin de là avec tous les animaux.
Et peut-être une question sur le processus. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as suivi le master de création littéraire du Havre. Comment s'est passé le travail à l'intérieur? Comment s'est passé le travail? Ça a été assez rapide pour conclure chez l'Olivier. Est-ce que c'était et au fond, c'est la question que j'ai posée à tous les auteurs qui sont venus à cette table primo-romancier. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça te fait de voir ton nom sur cette couverture?
Évidemment, je vais pas mentir, moi quand j'ai eu la nouvelle, le coup de téléphone, le fameux coup de téléphone dont parle la légende, ouais. J'ai sauté en l'air, j'ai fait des poings dans les airs comme un truc de kung-fu, j'étais complètement dingue, c'était vraiment super. Donc le travail, pour revenir sur la question du travail, comment ça s'est passé? En fait, le master de création littéraire, moi maintenant, puisqu'on n'est plus familier avec ce genre de formation, il y a beaucoup de fantasmes, comme quoi on apprendra à écrire d'une certaine manière. Je pense que si cette série d'émissions a prouvé une chose, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'était un espace pendant 2 ans où on prenait mon désir d'écriture au sérieux, où j'étais rebalancé vers certaines références. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert Jaume Cabré, Confiteor, qui était vraiment quelque chose aussi d'extraordinaire, que je voulais citer aussi. Et c'était vraiment assumer ce désir d'écriture en quantité, en qualité, et être guidé par Laurie Mongy, qui est intervenue, qui est professeur en master aussi, qui a eu les mots durs au bon moment, des bons retours, des choses pertinentes. C'était vraiment très, très éclairant, et j'ai appris énormément durant ce master. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est d'apprendre l'autonomie. Parce que face à un texte, face à un projet d'écriture, on doit apprendre à comment nous on travaille, puisqu'il y a 10 000 guides, 10 000 méthodes, mais il faut découvrir comment nous on fonctionne, et c'est ce que ces 2 ans ont permis, quoi. Vraiment un espace et un temps où on peut se planter, se tromper, essayer des choses et arriver à développer sa propre approche et sa propre pratique.
Je vais faire une petite statistique sauvage, moi aussi de la sociologie sauvage. Est-ce que tu as changé ton titre entre le texte que tu as présenté dans le master et celui qui est aujourd'hui édité?
Oui, il y a eu plein de changements. Il y a eu cet échange de mails, on s'échangeait 50 titres. Où j'étais très enthousiaste sur un titre et puis l'éditeur pas du tout. Enfin, ça s'est fait comme ça. C'était collaboratif, c'était assez intéressant. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est de passer du titre de travail au titre définitif, de voir tout ça se mettre en place, tout ça se faire. C'était vraiment vraiment intéressant pour ce point de vue-là aussi. Il y a des changements. Les gens voient un produit fini. Et puis moi, quand j'y retourne, comme aujourd'hui pour préparer l'extrait, je vois un monstre de Frankenstein fait plein de morceaux de peau. Et je trouve ça intéressant d'avoir les regards qui se croisent sur un même objet, quoi, un même texte.
Merci Guillaume Sorensen. Merci. C'est un livre très amusant, je le dis, très amusant et très passionnant. Un petit peu, mais sans t'enfermer dans une référence, mais qui m'a un peu fait penser à certains livres de Chevillard aussi. Il y a un peu cet humour-là qu'on peut retrouver. J'imagine que tu en es peut-être lecteur aussi de Chevillard. Tu es obligé de le dire, parce que c'est public, c'est enregistré, ça va être diffusé. Hein, donc,
Oui, Chevillard, évidemment, bien sûr.
Merci Guillaume. Je suis sûr que vous avez envie d'entendre d'autres petites annonces, non? Hein? Allez, quelques petites annonces pour finir.
Si on a un petit moment, oui, Etaïm.
Comme tu parlais, Guillaume, des animaux, en fait, j'ai pensé à Donna Haraway, qui a travaillé sur ce sujet, évidemment. Et on a une petite annonce qui est un peu en lien avec ça. Cherche version franco-allemande, jeune et baisable, de Donna Haraway. Les gros cerveaux cyborgs me font mouiller.
Toi, annonce 18. Toi, Gwyn, camionneuse mais qui roule à moto. Mains puissantes pour tirer mes cheveux et faire plier ma nuque. Épaules larges et rassurantes pour m'endormir. Moi, chatte accueillante, punkex le dimanche matin, championne de fellation sur bite en silicone, on se dira « je t'aime » après la troisième nuit. Tu m'appelleras femme et ça me fera mouiller.
Annonce numéro 7. Lion ascendant Sagittaire, ne matchant qu'avec d'autres lions, recherche éventuellement un signe de terre pour éviter une relation trop passionnelle.
Et un dernier alors, le 27, on n'a pas encore fait, non? Toi, rire franc, esprit idem, dis ce que tu fais et fais ce que tu dis, ancré et fluide, forme olympique et agenda flex, cheveux longs ou rasés, mais pas d'entre deux, mais mains chaudes pour squirts, cabanes, plantes, as en tarot ou à bananagramme, bibliothèque et collection de toys bien léchés, désir en expansion. Moi, je signe.
Merci, donc merci Claire. Non, il y en a encore une, pardon.
Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est juste pour vous rappeler notre adresse email si vous voulez répondre aux annonces. Oui. hello.rer.q@gmail.com.
On vous attend.
Merci Thames Bear, merci Claire Finch, merci Rebecca Chaillon, merci Camille Cornu, merci Ded Gabal, merci Guillaume Sorensen. On
merci
se quitte.
Lionel Ruffin.
Oui, oui, oui. Merci. Et on se quitte comme tous les soirs en musique. On se retrouve demain avec Hélène Merlin-Cageman et, comme dirait Johan Ferber, la révélation de la rentrée, Anne Pauly.
Et mami, et mami, you sexy. Et mami, you sexy. Et mami, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey, can I get that number? Hey mommy.